Bienvenue dans cette émission du 29 janvier 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Je me propose aujourd'hui d'aborder la question de la manifestation des agriculteurs qui, convergeant vers Paris, sont en train d'instaurer un blocus, notamment à Rungis, pour couper le ravitaillement de la capitale. Si je mentionne aussi souvent Michel Maffezoli et son travail, ça n'est pas du fait de la sympathie au demeurant bien réelle que j'éprouve pour cette personnalité, mais du fait de la justesse de ses analyses qui remontent à il y a fort longtemps et continuent de s'avérer justes au fur et à mesure de l'évolution des choses. Alors, notamment parce qu'il a ses doubles formations en anthropologie politique, il a notamment étudié avec un des fondateurs de la polémologie, l'étude des conflits à l'université de Strasbourg, Julien Freund, dont un ouvrage vient d'être réédité qui s'appelle « La décadence » que je ne peux que vous recommander. Alors, ça n'est pas aussi facile à lire qu'un magazine, faut se donner un peu de peine, mais si on se donne cette peine, ça en vaut vraiment la peine, puisqu'il y a déjà plusieurs décennies, Julien Freund mettait le doigt sur l'effondrement en cours de nos sociétés. Et quant à Michel Maffezoli, bien sûr, il a travaillé sur la violence totalitaire, la violence banale et fondatrice, mais aussi sur les courants de fond qui transforme progressivement notre société. Et tout récemment, les deux ouvrages qu'il a publiés au cours du Covid, « L'ère des soulèvements » et « Le temps des peurs » sont plus d'actualité que jamais. Et vraiment, je ne peux qu'inviter les spectateurs intéressés à les parcourir. Ils sont d'une lecture plus facile que les œuvres plus académiques que Michel Maffezoli a produites. Mais ils éclairent vraiment sous un jour extrêmement pertinent ce qui est en train de se produire. Et dans « L'ère des soulèvements » publié assez tôt au cours de la crise Covid, Maffezoli indiquait qu'il y avait un courant de fond de transformation de la société dans son ensemble, un nouveau monde en gestation qui était en train d'apparaître, ou qui plutôt n'est pas encore exactement en train d'apparaître, mais le processus est en cours, face à l'effondrement de toutes les structures, et notamment ce qu'on appelle les systèmes sociaux, qui se caractérisent dans une période de décadence par une dégénérescence qui les rend mortifères et morbides. On a pu voir au cours de la crise Covid comment la médecine était devenue mortifère et morbide, comment l'éducation est devenue mortifère et morbide, comment le Parlement et le pouvoir exécutif sont devenus mortifères et morbides, comment la presse est devenue mortifère et morbide. Et donc aujourd'hui, c'est l'agriculture qui se révolte, qui fait une sorte de soulèvement. Alors évidemment, ces soulèvements sont ponctuels, mais néanmoins, ils sont extrêmement significatifs sur l'évolution de nos sociétés. Laurent Ozon souligne que les appels à la conscription et à la guerre qui se sont produits récemment et se produisent dans nos pays sous le contrôle de l'oligarchie occidentale la voit être confrontée à des soulèvements sérieux en réaction à sa politique migratoire aux États-Unis, liberticide au Canada, énergétique, économique et agricole dans les pays d'Europe. Mais donc, la cocotte minute est en train de bouillir et fera boum tôt ou tard. Je me retournerai à plusieurs reprises au cours de cette émission vers une ressource sûre, au bon tweet français du très cher Victor Sinclair, et qui lui le résume avec son franc-parler légendaire. Tiens, apparemment au Canada ça gueule aussi. Du coup, les débiles, pouvez-vous m'expliquer pourquoi dans tous les pays dirigés par des mondialos, schwabos, progressistos, climaticos, LGBTQO, covidos, vaccinos, connards, les peuples ne peuvent plus voir leur sale gueule en peinture. Alors effectivement, au Canada, la Cour suprême vient de donner tort au Premier ministre Justin Trudeau. Rappelons-nous qu'alors que les routiers avaient convergé sur Ottawa pour lutter contre toutes les mesures liberticides et parfaitement inutiles des lois contre le Covid, avaient été affamés par Justin Trudeau, lequel avait fait bloquer leur compte en banque. Et effectivement, de guerre lasse, assez rapidement, les routiers avaient dû refluer. Et donc, la Cour suprême vient de reconnaître qu'il était totalement illégal pour le Premier ministre d'agir de la sorte. Alors, c'est à la fois, j'ai envie de dire, l'intérêt du système judiciaire, du troisième pouvoir, c'est qu'il intervient et il est à beaucoup d'endroits bien plus intègre que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le problème, c'est qu'il intervient très tardivement. Donc on est à peu près 2 ans après les fêtes, mais toujours est-il que donc le Premier ministre a été désavoué, son action a été reconnue comme étant anticonstitutionnelle. Et si nous avions un Conseil constitutionnel digne de ce nom en France, eh bien ce Conseil aurait déjà donné tort à réitérer reprise au gouvernement successif d'Emmanuel Macron. Alors au Canada, les routiers se sont remis en marche à la faveur de cette décision. Et puis effectivement, il y a une situation tout à fait sidérante au sud des États-Unis, dans la région, l'État du Texas, où, alors même que l'administration fédérale, face à un flux migratoire industriel, ce sont des centaines de milliers de personnes qui entrent illégalement aux États-Unis jour après jour, eh bien le Texas a pris la décision en tant qu'État, il faut rappeler que les États-Unis sont une confédération d'États, de bloquer la frontière avec ses propres forces de l'ordre, et l'administration Biden a désavoué le Texas, se disant même prêt à envoyer des troupes fédérales pour rouvrir la perméabilité de la frontière. Et donc il y a actuellement un mouvement de fond où plus de 700 000 véhicules se dirigent vers le Texas pour sécuriser la frontière en question. Alors à nouveau, je me permets de le dire, je ne suis pas un politique, je ne suis pas un moraliste, l'immigration en elle-même est plutôt une ressource pour nos pays, mais encore faut-il qu'elle soit maîtrisée et qu'elle se produise de manière respectueuse tant des populations migrantes que des populations qui les accueillent. Lorsque nous sommes face à une industrie de la migration dont on sait qu'elle est soutenue par des organisations comme les fonds soi-disant philanthropiques de George Soros et de Bill Gates, et qu'elles font affluer sur nos territoires tout plein de personnes qui viennent dans un mirage de la vie extrêmement prospère qu'ils y trouveront, ou avec des ayant commis des exactions extrêmement lourdes dans des contextes de guerre. On sait qu'il y a des perpétrateurs de viols, notamment dans la région d'Afrique où des conflits se sont déroulés ces dernières années, qui entrent librement sur le territoire français sans aucun contrôle. Et donc, c'est pour contrer cette réalité d'un flux migratoire industriel organisé pour saper les fondements de nos sociétés que les populations locales se mobilisent et les responsables gouvernementaux locaux se mobilisent. Et plus de 25 États américains ont décidé de soutenir le Texas. Donc, on est dans un contexte de pré-guerre civile, avec ces États qui se disent prêts à mobiliser des troupes pour aider le Texas à sécuriser sa frontière, et Biden qui dit qu'il va envoyer l'armée pour lutter contre les États en question. Et donc, au Texas, l'État sort les blindés pour se protéger de l'invasion migratoire. En France, l'État sort les blindés pour se protéger des agriculteurs. On mesure bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors la situation a commencé bien sûr il y a déjà quelques jours et il y a eu un semblant de retour en arrière puisque un responsable d'un mouvement syndical agricole, Monsieur Bail, avait décidé d'arrêter les actions, mais tout en disant que le gouvernement lui avait promis un poste contre son silence. Alors ça ne surprendra que les 13% des Français qui croient encore que la caste politique n'est pas corrompue. Le ministre de l'Agriculture est évidemment intervenu sur les plateaux pour dire que personne au gouvernement n'a proposé quoi que ce soit. Mais M. Paul-Antoine Martin fait une analyse très juste. Ils ne sont que magouilles et corruption. Ils salissent tout ce qu'ils touchent. Ils sont le cancer de notre pays. De qui parle-t-il ? Eh bien de la caste au pouvoir. Dans son livre « Le clan des seigneurs », dont je recommande la lecture à tout le monde, il souligne l'état de corruption des élites, élites au sens détenteurs du pouvoir, pas les plus intelligents et les plus nobles. Et M. Martin conclut en disant « Ils ne savent plus gérer qu'en achetant et en corrompant les gens qui peuvent leur résister, poste, voiture de fonction, argent, promotion, nomination, passe-droit, la belle méritocratie s'est inversée pour s'offrir aux plus corruptibles, c'est cela notre pays aujourd'hui. » Quant à Gérald Darmanin, grand adepte du double discours, il a commencé par dire « on ne répond pas par la violence à la détresse des paysans » pour dire très rapidement, il n'y aura pas de tracteurs dans Paris, puis mobiliser 15 000 gendarmes et policiers, des blindés, des forces mobiles avec de l'armement lourd et des hélicoptères. En effet, quelle démonstration d'amour. Et donc, il a été confirmé que dès ce lundi 29 janvier, un blocus de Paris et de la petite couronne parisienne serait mis en place, l'idée étant que plus aucun camion ne puisse approvisionner la capitale et avec l'intention de tenir aussi longtemps que possible pour que le gouvernement fasse des concessions réelles de fonds, et nous verrons dans un instant de quoi il s'agit. Donc, malgré les interdictions, les tracteurs sont arrivés à Rungis. En l'occurrence, des gendarmes et des blindés de CRS avaient déjà bloqué Rungis, donc il n'y a pas forcément besoin de bloquer ensuite. Le blocus avait été réalisé. Et puis évidemment, hein, une situation extrêmement tendue et intéressante, avec ces face-à-face entre la police et les agriculteurs, et sachant qu'il y a d'autres catégories d'acteurs sociaux, notamment les taxis à Paris, qui sont venus prêter main forte aux agriculteurs. On peut penser également aux chauffeurs routiers. Évidemment, c'est une situation particulière, parce que autant il reste possible d'aller faire donner de la matraque, du gazage, de la mutilation et de la violence la plus extrême par les troupes entraînées à cette fin des forces de l'ordre, autant quand les policiers se retrouvent face à des agriculteurs, eh bien la situation est un petit peu plus difficile, et notamment avec toutes les armes à disposition, les tracteurs, les véhicules lourds, les déversements de lisiers, de fumier et de déchets. Et donc on a vu des scènes assez amusantes, faut-il dire, avec un tout petit peu de Schadenfreude, dirait-on en allemand, c'est-à-dire de réjouissance face à des trucs pas cool pour ceux qui les vivent, où des véhicules de police se sont fait asperger de lisier par des agriculteurs fâchés, et on dira pudiquement qu'ils y réfléchiront à deux fois avant d'y revenir. Cela dit, donc, le gouvernement et le principal syndicat agricole, la FNSEA, tentent de contrôler le mouvement, mais il est bien possible, comme le relève l'économiste Philippe Murer, que cela leur échappe vu la colère et surtout le désespoir des agriculteurs, et on voit un énorme soutien dans toute la France s'exprimer en faveur des agriculteurs. Alors il faut rappeler que c'est une situation compliquée, parce que la FNSEA est un cas à part, et je vous renvoie à l'excellent article de Éric Ferrag dans le Courrier des Stratèges, dont il est le directeur de la rédaction, et notamment il souligne que c'est une espèce de géant hybride qui finalement prétend défendre les intérêts des agriculteurs, mais défend quand même beaucoup l'intérêt de l'industrie agroalimentaire, tout en étant subventionné par le ministère de l'Agriculture. Donc c'est une situation un peu particulière, et on pourrait dire que la FNSEA fait à bien des égards beaucoup plus partie du problème que des ébauches de solutions. Alors voilà, les agriculteurs sont très remontés, ils annoncent que le but c'est d'affamer les Parisiens, repris bien sûr de manière très dramatique sur les chaînes de télévision, et il est vrai que les stocks de les réserves de nourriture de la capitale sont relativement faibles, donc on part du principe que sans ravitaillement, en 4 jours, eh bien les restaurants ne peuvent plus proposer de nourriture, les rayons des épiceries et des supermarchés sont vides, et les Parisiens dépendront de leurs réserves pour survivre. Alors je me suis permis de rappeler quand même en cours de route que tout adulte en raisonnablement bonne santé peut se priver de nourriture pendant 30 à 40 jours sans dommage pour sa santé. Donc voilà, allons-y mollo sur on va affamer la population comme si jamais des gens allaient mourir de faim dans les 24 heures. Non, ce qui est évidemment essentiel, c'est d'assurer la nutrition des enfants et des jeunes, des personnes âgées, des femmes enceintes, des personnes malades. Mais enfin, les Parisiens eux-mêmes peuvent très bien ne boire que de l'eau pendant quelques jours, ils n'en mourront pas. Et ils peuvent même tenir très très longtemps par rapport à ça, donc même si ça paraît désagréable, il faut savoir que la faim disparaît au bout de 2 ou 3 jours, nous sommes très très loin d'être dans une situation catastrophique, et tout laisse penser que de toute manière, ça s'arrangera d'ici là. Cela dit, petit conseil, si vous devez jeûner plus de quelques jours, il faut savoir que l'énergie se retire passablement à l'intérieur pour faire tout un processus de nettoyage, qu'on a moins d'énergie disponible pour la vie extérieure et notamment son travail, donc peut-être qu'entrer en grève en soutien aux agriculteurs pourrait être éventuellement une bonne idée. Mais donc ce dont il est question ici, bien sûr, au-delà des questions pratiques immédiates, mais c'est de l'énorme mal-être de la profession, et qu'il faut resituer dans cette transition entre l'époque moderne, qui était tout pour la rationalisation, l'utilitarisme, le progrès qui allait nous libérer de toutes les servitudes et nous conduire vers un futur glorieux, et qui, poussé à une forme d'extrême, devient au contraire complètement déshumanisant, mais aussi appauvrissant pour les catégories sociales en question. Et malheureusement, nos pays se sont complètement défaits de leurs industries pour dépendre d'approvisionnements lointains pour tous les besoins primaires et secondaires de la vie économique et sociale. Nos chaussures ne sont plus faites en France, nos habits ne sont plus faits en France, une grande partie de notre nourriture n'est plus produite en France, nos objets de consommation ménagère ne sont pas produits en France, et donc nous sommes désormais hyper dépendants de la globalisation, privés des ressources de produire sur place, et bien sûr que l'agriculture, avec une industrialisation à outrance, a été portée dans cette direction. Et toujours en faisant croire que les agriculteurs serait gagnant. Enfin, c'est évident depuis longtemps que ça n'est pas le cas. Et notamment avec la multiplication des normes, des règlements et des contraintes, mais jusqu'à l'absurde, mais qui est tout à fait typique d'une société où, comme le dirait l'économiste Charles Gave, l'immense majorité de ceux qui la constituent sont des passagers clandestins. C'est-à-dire que les véritables producteurs de richesses, eh bien, ce sont les entreprises, ce sont précisément les agriculteurs, ce sont les commerçants de détail et les restaurateurs qui mettent à disposition les biens et eux participent réellement à créer de la prospérité. Puis vous avez désormais des couches et des couches et des couches et des couches de la population active qui, en réalité, ne servent pas à grand-chose, voire n'ont comme fonction que d'enquiquiner les autres en multipliant les normes et règlements à outrance et en créant de nouvelles professions pour vérifier que ceux que l'on afflige de toutes ces absurdités respectent bien les injonctions insensées dont on les noie. Et donc, par exemple, comment en sommes-nous arrivés à devoir demander la permission pour cultiver tel fruit ou légume ? De devoir remplir 18 pages pour planter 8 chênes et d'espérer des aides pour pouvoir survivre. Et là, on voit bien, de nouveau, la perversion de ce domaine d'activité tellement essentiel. On connaît aussi tout le chantage et la confiscation des semences, de l'accès aux semences, où les agriculteurs sont aujourd'hui complètement captifs de ce système, comme accessoirement la comparaison n'est pas inutile avec les esclaves noirs américains après la suppression de l'esclavage. C'est-à-dire que quand l'esclavage a été supprimé, eh bien ces populations agricoles qui vivaient dans des domaines où ils appartenaient à leurs propriétaires se sont vues faire miroiter la perspective de devenir indépendants, autonomes et de s'enrichir. Ils ont dû s'endetter pour acheter des semences et des outils qui étaient rachetés à vil prix. Et donc, ils ont connu un statut qui, à bien des égards, n'était pas meilleur que sous l'esclavage. Et c'est ce modèle de folie moderne que nos autorités nationales et européennes ne cessent de promouvoir depuis un certain nombre d'années. Bien sûr, l'immense majorité des normes est au service de l'agro-industrie et du libéralisme, mais pas du tout du bien-être des communautés agricoles. Au bon tweet français le résume à sa manière, on va dire les choses simplement, toutes les exigences et directives de Bruxelles sur l'agriculture n'ont qu'un seul but, faire crever les agriculteurs indépendants pour concentrer tous les moyens de production de nourriture entre quelques milliardaires et multinationales. Voilà. Et vraiment, le constat, mais c'est bien parce que des crises comme celle-là nous précipitent dans cette direction, énoncé par Philippe Murer, il faut sortir de l'Union européenne pour mettre en œuvre une politique de sauvetage national de l'agriculture française, mais aussi de l'industrie française, des forces vives économiques françaises, parce que Bruxelles est devenue la tête de pont d'une prédation sur les populations. Béatrice Rosen, c'est intéressant de voir comment des personnes intelligentes de la société civile sont capables de voir clair dans ce genre de réalité, où elle dit, j'irais même plus loin que la phrase d'un paysan qui disait, c'est certainement notre dernier combat, si on perd celui-là, l'agriculture française sera complètement morte. Et Béatrice Rosen surenchérit en disant, si les agriculteurs perdent, la digue aura totalement lâché et nous aurons tout perdu aussi. La table rase sera achevée par une Union européenne autoritaire sous contrôle de petits technos, ce fameux mélange de collectivisme consumériste oligarchique dont seule la petite caste bénéficiera. Et c'est ça la réalité collective dans laquelle nous sommes. Vous avez entendu ces histoires horribles de gens qui meurent après des heures et des heures d'attente et d'agonie dans les services d'urgence des hôpitaux par défaut de soins. Vous voyez la réalité de l'effondrement de l'enseignement et de l'éducation tout au long de la maternelle aux universités. C'est comme ça dans tous les domaines de nos sociétés. C'est le résultat de l'emprise mortifère de la dérive totalitaire incarnée et mise en œuvre par l'Union européenne et ses différentes instances. Alors voilà par exemple ce que l'État soviétique français anticipe comme scénario de développement pour l'agriculture, surface de fourrage moins 41%, surface de vigne moins 21%, consommation de vin, de viande entre 2020 et 2050 moins 50%. Consommation d'insectes, par contre, là, vous pouvez vous attendre à un plus plusieurs milliers de pourcents. Et donc voilà, il y a la réalité de ce mal-être terrible dans nos campagnes et territoires. Silence dans les champs fut un remarquable essai d'un auteur sur ces réalités, et Damien Jeanne, historien qui intervient fort à propos sur l'évolution de notre société, souligne que le problème ne sont pas seulement les questions techniques, les prix des carburants, les capacités de survie économique, qui bien sûr sont de prime importance, mais également tout ce qui va avec, c'est-à-dire le poids des lobbies, l'omerta, les violences, les prix au rabais, l'agro-business, la complicité de l'État et de quelques syndicats. Alors, le prétendant légitime au trône de France, le duc d'Anjou, intervient régulièrement. Il avait pris la défense de manière très méritoire à mes yeux des Gilets jaunes, à une époque où il était le seul à le faire dans l'espace politique. Et donc il s'est fendu d'une nouvelle tribune en disant « Mais quand arrêtera-t-on de faire établir des règlements par des autorités lointaines, déconnectées de la vie des métiers ?» Les technocrates ont hélas bien trop souvent perdu depuis plusieurs générations tout contact avec les particularités de la terre et de la mer et de la vie en général, pourrait-on ajouter. Maintenant, comme malheureusement la propagande révolutionnaire a fait croire que la monarchie était un espace tyrannique, ce qui est faux historiquement, même dans un système de monarchie absolue, le monarque était extrêmement contraint par un ensemble de loyauté aux corps sociaux, et au fait qu'il ne pouvait surtout pas se permettre n'importe quoi, et on se prend presque à rêver que si le trône de France était habité par un esprit qui pouvait contenir un peu la fureur destructrice des politiciens, bah ça ne serait pas forcément une mauvaise chose. Je ne prends pas parti, je fais un commentaire. Et puis bien sûr, la diabolisation du mouvement, quoi d'autre ? Et notamment par les médias staliniens qui malheureusement sévissent actuellement en France. Et regardez comment France Inter, troll russe, complotiste, extrême droite, le hashtag agriculteur en colère envahi par les récupérations. Voyez la malveillance et la perversité de ces organes et des gens qui y travaillent. Est-ce que ça leur traverserait l'esprit une seconde que peut-être les gens qui soutiennent les agriculteurs le font simplement par sincérité et par conscience de l'importance de l'enjeu ? Alors, à ce sujet, je rappelle aux agriculteurs que le principal ennemi aujourd'hui, ce sont les médias. Si la population était informée honnêtement de ce qui se déroule en France et à travers le monde, l'opinion publique ne serait pas le même, donc peut-être que quelques réserves de lisier pourraient servir à aller badigeonner les devantures des rédactions et dissuader les journalistes de persévérer dans ces voies absolument déplorables et nauséabondes. Mais évidemment que c'est tout le système de gouvernance de la France qui est en souffrance. Au bon tweet résume, Macron est un pervers destructeur. L'ai-je abondamment dit, mais preuve à l'appui, élément probant à l'appui. Ce n'est pas une injure, ce n'est pas une position politique, c'est un constat, hélas, du profil de personnalité de ce sinistre personnage. Attal est un enfant, Larcher est un ventre sur pattes, Yaël Braun-Pivet a le niveau de réflexion d'un ado attardé de 12 ans, et Laurent Fabius a passé sa vie politique à trahir les Français. Voilà les cinq personnages les plus importants de l'État. Effectivement, Laurent Fabius, qui, rappelons-le, a délibérément contaminé des milliers de transfusés en 84-85, causant d'innombrables décès, préside le Conseil constitutionnel et réalise une sorte de coup d'État permanent au service de l'oligarchie mondiale depuis le poste qu'il occupe, avec bien sûr ses collègues du Conseil constitutionnel. Gérard Larcher en connaît sa position. Il y a une ligne rouge à ne pas franchir, à savoir la fermeture des restaurants parisiens. Jusque-là, a priori, il peut vivre avec. Et puis, je remercie Francis Lalanne de son facétieux clin d'œil, mais qui va beaucoup plus loin qu'il en a l'air, où il donne un conseil aux agriculteurs en colère. Si vous voulez déranger les politiques mafieux, allez bloquer leur club libertin sur Paris. Vous verrez, ils réagiront vite pour vous donner satisfaction. Et Darmanin sera tout docile. Toute leur vie tourne autour de leur slip. Puis nous terminerons avec une remarque beaucoup plus altière de Véronique Lévy. Elle dit très justement « La révolte paysanne est un signe. Elle est le symptôme des pires colonisations et l'avant-poste des pires révolutions. » La cause paysanne doit se libérer de toute récupération politique ou syndicale pour que triomphe la victoire légitime de la souveraineté des terres et des patries. C'est ce dont il s'agit. Le temps des tribus, cher à Michel Maffezoli, c'est la reconquête d'une souveraineté locale, d'une souveraineté de terroir par les communautés qui y vivent, dans une république qui soit une mosaïque et non plus un tout monolithique, où une élite dégénérée cherche à imposer sa vision morbide de l'existence depuis le sommet. À demain, merci.